Salut tout le monde, c'est Alexis. Un petit mot, une petite précision avant l'épisode de cette semaine, le début formel de l'épisode de cette semaine, au cours duquel vous allez entendre une discussion entre Jeff Nicolas et moi sur Gemini. Gemini, c'est le nouveau modèle d'intelligence artificielle multimodale qui a été dévoilé cette semaine par le géant Google. Bon, ce qui arrive, là, c'est que l'entreprise, elle a mis en ligne, dans la foulée de cette annonce, une démonstration vidéo des capacités de Gemini et qui a, cette vidéo, bien franchement, impressionné pas mal de monde, dont nous. Et puis ça, on l'évoque dans la discussion qu'on a là-dessus cette semaine. Ce qui se passe, c'est qu'après l'enregistrement, je dis bien après l'enregistrement de l'épisode, bien, on a appris que la démonstration en question ne représente aucunement les capacités actuelles de Gemini, surtout en ce qui concerne sa vitesse d'exécution. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est encore plus mis en scène qu'on ne le pensait. Mais malgré tout, on a décidé de conserver la discussion telle qu'elle, intacte. Pourquoi? Parce qu'elle demeure, à nos yeux, très pertinente. Et le fait que la vidéo, comme telle, exagère autant les capacités du modèle, bien, c'est une démonstration parfaite, on pense, du phénomène d'emballement. Vous savez, cette hype qui existe autour de l'intelligence artificielle et dont on vous parle justement dans l'épisode qui suit. Bonne écoute.
Radio-Canada, audio.
Sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue au 11e épisode du balado des décrypteurs Alexis Delancère en compagnie de mes fidèles complices, mes acolytes, mes amis. D'abord et avant tout, Jeff et Nicolas. Salut les gars.
Très touchant, salut.
Ouais, c'est ça.
C'est
pareil.
Vrai, c'est vrai.
J'espère que c'est
à chaque semaine, il en met encore plus dans ses intros. On aime ça.
Ah ouais, imaginez la suite. Nicolas, dans un premier temps, c'est toi qui vas initier notre tour d'horizon habituel pour mettre les gens en appétit. Mm-hmm. De quoi tu vas nous parler, entre autres, aujourd'hui?
On parlera du malaise qu'a subi Valérie Plante plus tôt cette semaine et surtout les réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux par la suite.
Les bras m'en sont tombés. Tant de choses à dire.
Ouais.
Jeff?
Ouais, un autre élément d'actualité. Là, je vais parler des vraies raisons pourquoi il y a des coupes. Dans les médias, on en a beaucoup entendu parler.
Ce qu'on nous dit pas, c'est ça, ce qu'on nous cache, la vérité. Gracieuseté, Jeff Yates. On va vous parler aussi, évidemment, on vous parle tout le temps d'intelligence artificielle par la force des choses. La sortie de Gemini, ça, c'est la réplique de Google au robot conversationnel de ChatGPT et d'OpenAI, c'est pas ça? Ah
non, c'est ça. C'est juste, il y a un de mes amis, Simon, on va faire un petit shout-out, une petite mention spéciale, qui me disait récemment, il me dit, ah, vous avez parlé de quoi cette semaine, des réseaux sociaux et de l'IA? Tu sais, à la blague, j'ai dit, ben oui. C'est ça, on va encore parler des réseaux sociaux et de l'IA, Simon, juste pour toi.
Ben voilà, Simon, t'as vu juste. Et ce n'est pas tout, on va parler aussi de jeux vidéo et de la sortie de GTA 6, de l'emballement que ça suscite, des polémiques aussi, parce qu'il y en a toujours des polémiques dont on parle ici au balado des décrypteurs. C'est parti, 3, 2, 1, allons-y. En tout premier lieu, c'est sûr qu'on est content de savoir que Valérie Plante va mieux après ce malaise. Elle s'est affaissée en pleine conférence de presse. Tout ça sous l'œil des caméras. Et on connaît l'époque dans laquelle on vit, n'est-ce pas, Nicolas et Jeff? Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont été... Les gens sont vite sur la gâchette. Et on a vu certains discours revenir. On va y aller concrètement, Nicolas. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les réactions que ce malaise de Valérie Plante a suscité?
Bien, d'abord, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste des gens qui se réjouissaient du fait qu'elle s'est effondrée.
Il y en a eu.
Ça montre la virulence qu'on voit sur les réseaux sociaux tout le temps quand des choses comme ça surviennent. Ça, déjà, c'était déplorable. Mais surtout, depuis 2 ans, à chaque fois que quelqu'un subit un malaise, à chaque fois que quelqu'un s'effondre, à chaque fois que quelque chose comme ça survient, on pointe du doigt le vaccin contre la COVID-19.
Bien sûr.
La communauté anti-vaccin, ça fait longtemps qu'elle fait ça, qu'elle prend des événements, qu'elle prend des anecdotes et qu'elle associe ça au vaccin sans trop de preuves. Mais maintenant, chaque fois qu'il y a un décès, chaque fois que quelqu'un s'effondre, chaque fois que quelque chose hors norme arrive, on voit des gens dire, ben voilà, c'est la faute du vaccin. Mais si ça se limitait seulement à quelques internautes québécois qui disaient ça, on n'en parlerait pas aujourd'hui. C'est surtout le fait que de nombreux comptes très influents dans la communauté anti-vaccin, dans la communauté anti-mesures sanitaires depuis plusieurs années, ont partagé cette vidéo-là à l'international. On a vu toutes sortes de tweets à ce sujet-là qui disaient « Vous voyez, la mairesse de Montréal s'est effondrée. » On sortait des vieux articles comme quoi qu'elle avait obligé les employés municipaux à se faire vacciner.
Des photos d'elle qui se vaccine, puis ben voilà, puis tant mieux pour vous. Mais c'est, moi, c'est ça, tu l'as dit tantôt, la virulence, voire la méchanceté qui accompagnait ces commentaires.
important.
Oui, le fait que les gens s'en réjouissent carrément, puis on voyait beaucoup ça pendant la pandémie, on en a parlé plusieurs fois à l'émission, sur le site, mais on n'en a pas parlé encore au balado, puis je trouvais ça important aujourd'hui qu'on aborde ça, parce que en fait, il n'y a premièrement aucune preuve, évidemment, que c'est lié au vaccin, mais aussi, c'est un discours qui est revenu à plusieurs reprises, et surtout quand on parlait de jeunes athlètes. Ça, c'était un des thèmes récurrents qui revenait, qu'il y a plusieurs jeunes athlètes qui se sont effondrés sur le terrain.
« Died suddenly », c'est ça?
Il y avait un documentaire nommé « Died suddenly ».
Documentaire entre guillemets, là.
Oh, oui, c'est ça. très important de spécifier des très gros guillemets autour du mot « documentaire » qui compilait toutes sortes de vidéos de gens qui s'effondraient et qui établissaient des liens avec les vaccins. Donc, j'ai fait un peu de recherche là-dessus hier et j'ai trouvé une étude récente qui a été publiée le 13 novembre dans le journal scientifique Circulation.
Ah oui?
Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont étudié les morts subites cardiaques d'athlètes collégiens américains sur une période de 20 ans. Là, on parle d'athlètes parce que c'est ça qui revenait bien souvent dans ces discours-là. Et là, on peut le chiffrer
et l'étudier. Parce qu'on dit, des jeunes athlètes dans la fleur de l'âge qui sont en bonne forme, puis là, qui meurent subitement de crise cardiaque. On n'a jamais vu ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité.
Ça
puis là,
doit être
tout d'un coup, on en voit. On en voit juste depuis 2021, selon ces discours-là.
Alors qu'un simple exercice, que ce soit pour les athlètes, que ce soit pour des gens qui s'effondrent, si on fait une recherche Google pour s'effondrer soudainement ou des choses comme ça avant 2020,
ouais,
on va trouver...
Oui, petit truc pour les gens qui nous écoutent, faites-les, parce qu'on sait que bon, faut faire nos propres recherches. Faites-le. Allez dans Google, mettez entre guillemets « s'effondre sur scène », puis écrivez « avant 2020 », sans espace, et vous allez en voir des tonnes et des tonnes de résultats. Il y a des gens qui disent « on a juste vu ça après 2021 », c'est absolument faux, vous pouvez le constater par vous-même. J'essaie pas de vous convaincre, faites-les vous-même, faites vos propres recherches. Puis les outils sont là pour le voir, là. C'est pas compliqué. Ouais,
c'est pas compliqué, mais ce qui est compliqué pour eux... c'est que la pandémie, la parenthèse pandémique, on commence à s'en éloigner, là. Et puis ça, c'était un de leurs chevaux de bataille principal, ce mouvement anti-vaccin. Il y a une quête de visibilité à travers tout ça, non?
Il y a une quête de visibilité à travers tout ça, puis surtout de garder un public captif.
Exact.
Il faut un outil pour le faire. Ouais. Et les vaccins sont encore un véhicule important pour ce discours-là. Là, on voit avec ce qui se passe en Palestine, ça divise un peu cette communauté-là, conspirationniste. Ils ne savent pas trop quel bord choisir, finalement, parce que ça divise beaucoup la population. Donc, on retombe dans les vieux classiques. Toi, tu as souvent dit, c'est comme un groupe qui rejoue...
Leur vieux hit des années 80, ouais.
C'est ça. Fait qu'on vient, on fait la tournée pour rejouer les vieux hits. Mais là, j'ai commencé sur l'étude. Je veux juste finir là-dessus parce que c'est important,
Nicolas,
de le mentionner.
Je t'ai fait éloigner de ton fil conducteur.
Non, c'est ça, parce qu'on fait quand même la vérification de faits. Vérifions ces faits-là. Sortons ce qu'a dit cette étude-là, publiée le 13 novembre. Donc, on a étudié les morts subites cardiaques d'athlètes collégiens. Et ça, c'était vraiment l'emblème de cette idée que les vaccins causaient des décès, causaient des problèmes cardiaques. On sait que, bon, les vaccins contre la COVID étaient associés à des myocardites chez les jeunes. Des myocardites qui, généralement, étaient bénignes. Mais les gens faisaient comme si que les gens avaient toutes sortes de problèmes cardiaques à cause de ça et mouraient. Donc, ce que cette étude-là nous montre, c'est qu'on a observé 143 morts sur une période de 20 ans. Il y en a seulement 8 qui étaient liés à des myocardites et pendant la pandémie, il n'y avait aucun de ces décès-là qui était lié au type de myocardite qui pouvait être causé par les vaccins contre la COVID-19. Donc là, zéro. Et non seulement ça, mais depuis 2020, selon cette étude-là, on observe même une baisse de décès d'athlètes, de jeunes athlètes pour des raisons comme celle-là. Il y a plusieurs raisons possibles qui sont évoquées dans l'étude. Il y en a une qui est parce que peut-être que les processus pour vérifier si les athlètes ont des antécédents ou ont des maladies cardiaques qu'on ne connaît pas. Donc, les vérifications qu'effectuent des équipes avant sont peut-être améliorées avec le temps. Ça, c'est une des thèses qui est avancée. Donc, voilà, on voit que non seulement il n'y en a pas plus, mais il y en a même moins depuis la pandémie.
Ça, c'est bien connu comme effet psychologique, c'est le biais de confirmation. Avant le vaccin, les gens ne prêtaient pas attention aux athlètes qui s'effondraient ou qui mouraient subitement sur le terrain. On ne prêtait pas attention de façon systématique. Là, depuis que cette trame narrative-là sur les vaccins est sortie, chaque fois qu'il y en a un, les gens s'en rendent compte et ils leur prêtent attention. Puis faites l'exercice, là, prenez quelque chose, par exemple, pensez dans votre tête, OK, les manteaux verts. Et là, vous allez voir dans la rue, vous allez remarquer plein de gens qui portent des manteaux verts. Oh mon Dieu, tout d'un coup, je me rends compte que plein de gens portent des manteaux verts, alors que dans la vie de tous les jours, vous n'y prêtez pas attention à ça. Donc, c'est bien connu, quand vous commencez à... Vous partez d'un point de vue où vous prêtez attention à un certain sujet, vous allez le voir partout. Donc, c'est les gens ont l'impression que tout d'un coup, il y en a partout, puis que c'est un phénomène qui est inouï. C'est parce qu'ils prêtent attention soudainement depuis la pandémie. C'est tout simplement ça qui se passe.
Alors qu'il y a des raisons pour lesquelles les jeunes athlètes peuvent subir ce genre de malaise-là, ils sont un peu plus susceptibles. C'est un peu plus susceptible que ça leur arrive que le reste de la population.
Pourquoi?
Parce qu'ils font justement de l'activité physique très intense et souvent, bien souvent, parfois, ils peuvent avoir des maladies cardiaques qui sont non diagnostiquées. Donc, cette activité physique très intense peut mener à des situations comme ça.
Les faits sont têtus. Et puis là, c'est important que tu nous soulignes ces faits-là tirés de cette étude qui, somme toute, assez récente. Mais
on pourrait peut-être mettre un lien dans les commentaires. Juste pour que les gens puissent aller consulter par eux-mêmes.
Exactement. Puisque tu parles de commentaires, on le rappelle, n'hésitez pas à communiquer avec nous par le biais des commentaires, des courriels et tout ça. Revenons à Valérie Plante. Là. Il y avait d'autres ingrédients dans toute cette hargne qui était suscitée dans ces commentaires, parce que c'est une conjonction de plusieurs éléments. Valérie Plante, les vaccins, OK, mais Valérie Plante, aux yeux d'une certaine frange de la population, qui est celle dont on parle, c'est aussi, entre guillemets, une woke, une progressiste, une femme. C'était comme une constellation de choses qui faisaient en sorte que la hargne dont on parlait est amplifiée, Nicolas Jeff. Hein?
Oui, c'est certain, mais ben, des politiciens, en général, les politiciens ne l'ont pas facile sur les réseaux sociaux, que ce soit Valérie Plante, François Legault, n'importe quelle maire de ville au Québec, mais elle en particulier, c'est sûr que...
Écologiste, environnementaliste. Écologiste.
Ça suscite beaucoup de haine en général sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il va faire une sortie. Donc ça, c'était comme la tempête parfaite pour qu'il reçoive toute cette haine-là.
Ouais, c'était quoi? C'est le Endwokeness, là, le méga gros compte américain qui a partagé une photo de Valérie Plante qui obtient son vaccin, puis ensuite, elle qui s'effondre. T'es un compte américain. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la politique municipale montréalaise? Ben, c'est parce que Regardez la woke qui subit des problèmes de santé. Je veux dire, il y a comme une méchanceté incroyable à voir ça. Supposons que tu y crois là, que les vaccins causent toutes sortes de problèmes des problèmes de santé. Tu te réjouis de ça, pour vrai? Comme, il me semble que si tu crois vraiment à ça, tu devrais pas dire, ben regardez comment c'est triste, tu sais, il y a des gens qui s'effondrent à cause du vaccin. Non, non, c'est vraiment à chaque fois que quelque chose comme ça arrive... C'est le party. C'est comme, regardez, on vous l'avait dit, puis vous subissez. C'est d'une méchanceté qui est quand même assez incroyable. Là,
mais c'est des gens qui sentent aussi qu'ils ont subi des injustices pendant la pandémie à cause de choses comme le passeport vaccinal, dont...
Les confinements.
Les confinements. Puis c'est certain que des choses comme ça a affecté énormément la vie des gens. Ils se sont sentis discriminés par les gens qui se faisaient vacciner. Fait que là, ils font, bon, dans votre face, maintenant, vous subissez des maladies. C'est à cause de ce poison que vous avez fait injecter, tu sais.
Faut aussi souligner, là, il y a eu toutes sortes d'histoires pendant la pandémie où tu as des anti-vaccins qui mouraient de la COVID, puis tu avais aussi des gens qui se réjouissaient de ça. Puis,
c'est ça.
Vraiment malheureux. Je veux
exactement.
Dire, c'est pas correct de se réjouir des problèmes de santé de quelqu'un parce que c'est la personne est du mauvais bord, puis de quasiment triper sur l'ironie de la chose. En tout cas, c'est les réseaux sociaux.
Ça montre encore la polarisation.
La polarisation, entre autres, une de ces manifestations et de la toxicité aussi des réseaux sociaux, en particulier X, évidemment, sous le règne d'Elon Musk. Fermons cette parenthèse, passons à un autre sujet qui est ancré dans l'actualité. Une actualité, chers collègues, qui nous touche directement. Comment ça va nous toucher? Ben, on va le savoir au cours des prochains mois. C'est pas encore précisé, mais on le rappelle. Donc, des centaines de postes qui sont potentiellement en voie d'être supprimés à Radio-Canada, à CBC, 600 postes, 200 postes vacants qui ne seront pas comblés. Les coupes à Radio-Canada, ça a suscité beaucoup de médiatiquement de réactions cette semaine. Ce qui t'a inspiré aussi un sujet pour le balado, Jeff?
Oui, c'est parce que il y a eu beaucoup de coupes dans les médias là, au cours de la dernière année. On a nos collègues à TVA, des centaines de postes qui ont été coupés. Dans le reste du Canada, ça n'arrête pas. Il y a le journal Métro qui a fermé, mon ancien employeur.
Ouais.
C'est une histoire, c'est un refrain qu'on sent revenir beaucoup trop souvent dernièrement. Puis chaque fois qu'il y a des coupures dans les médias, on entend souvent la même chose. les plateformes comme Facebook et Google sont venues bousiller le modèle d'affaires des médias. Catherine Tate, la présidente de Radio-Canada CBC, l'a dit là, dans son allocution aux employés lundi. Elle a dit, regardez, on fait face à une concurrence déloyale de la part des géants de la Silicon Valley comme
c'est
Facebook
pas vrai,
et Google. Ben, j'ai une réflexion par rapport à ça parce que on dit souvent que les plateformes ont un nouveau modèle d'affaires qui vient détruire le modèle d'affaires des médias. Je pense que c'est faux.
Okay.
Le modèle d'affaires des médias, c'est quoi? C'est d'obtenir un auditoire en diffusant du contenu, puis ensuite de montrer des publicités, puis charger pour les publicités. En quoi est-ce que c'est différent de YouTube et de Facebook? C'est ce qu'ils font, ils diffusent du contenu, ils montent des publicités. Donc, c'est pas radicalement différent. On dit souvent aussi, bon, Facebook et Google permettent le ciblage de publicités pour cibler certains auditoires avec des gros algorithmes super puissants. Là encore, il n'y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans. Oui. Regardez les publicités pendant une émission de chasse et pêche versus des publicités pendant une télé-réalité, par exemple. C'est des auditoires complètement différents. Les publicités sont complètement différentes.
Elles sont déjà ciblées.
On ne va pas aller montrer une publicité de filet de pêche pendant OD, par exemple. En tout cas, je n'écoute pas OD, mais vous pouvez me corriger là-dessus. Mais je veux dire, ça existe déjà.
J'ai été outé. Là.
Les différentes émissions, les différents magazines, les choses comme ça, avaient des auditoires distincts. Puis les différents annonceurs faisaient affaire avec ces plateformes différentes-là pour atteindre un auditoire qui est ciblé. Donc, ça non plus, c'est pas radicalement différent. Il y a deux choses à mes yeux qui sont radicalement différentes avec le modèle d'affaires des plateformes. De un, c'est qu'ils ont un monopole.
Exactement.
Ça, faut pas se le cacher. C'est ça le gros enjeu. C'est que ces plateformes-là ont des milliards d'utilisateurs.
Un monopole qu'avaient les médias traditionnels avant.
Exactement. Puis, ce monopole-là, comment est-ce qu'il a été obtenu? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que ces entreprises-là n'étaient pas profitables quand ils ont commencé. Facebook et Google ont perdu des milliards de dollars avant de devenir profitables. Puis c'est la nouvelle vision de Silicon Valley, c'est on va brûler des centaines de millions de dollars par année pour aller obtenir un monopole. C'est le même modèle d'affaires de Uber, c'est le même modèle d'affaires de Spotify, c'est le modèle d'affaires des plateformes.
Mais on a laissé le loup rentrer dans la bergerie, nous, médias.
Oui, parce qu'on a décidé de mettre notre contenu là-dessus en se disant qu'on peut en tirer profit parce que ça nous donne accès justement à cet auditoire monstre qui était sur Facebook ou sur les plateformes de Google. Mais là où je veux en venir, c'est que ces plateformes-là ont bénéficié d'un avantage indu par rapport aux autres plateformes de diffusion de publicité, c'est qu'ils ont eu accès à un capital quasiment infini où ils pouvaient brûler des centaines de millions de dollars pour aller obtenir leur auditoire monstre. Chose qu'on n'aurait pas laissé les médias faire. Il n'y a personne qui aurait donné 50 milliards de dollars aux médias canadiens pour se bâtir un auditoire comme ça. Quand on parle de concurrence déloyale, elle est là, dans le fond. C'est que ce monopole-là a été obtenu d'une façon que aucune autre entreprise qui ne fonctionnait pas dans la tech, dans le contexte spécifique du milieu des années 2000, début des années 2010, aurait pu bénéficier de toutes ces ressources-là pour obtenir ce monopole-là. Donc, c'est là, je pense, que faut. Quand on parle de concurrence déloyale, il est là, le bobo. C'est pas qu'un combat à armes égales. Les médias et Google et Facebook sont dans la même business.
C'est le même écosystème.
Le modèle de revenu est semblable. C'est juste que d'un côté, on a les immenses ressources de l'investissement, l'investissement capital aux États-Unis. Donc, il y a quand même, c'est une réflexion à avoir, je pense, parce qu'on dépeint tout ça comme les génies de Silicon Valley qui sont venus voler les revenus des médias, mais c'est pas si simple que ça, je pense. Là.
Donc oui, c'est un modèle d'affaires qui se ressemble. Je comprends bien ta réflexion, mais ce qui est diamétralement opposé, c'est le souci d'une information de qualité. Ça, on peut dire que les grandes plateformes, dans une certaine mesure, en tout cas, la preuve en est établie, je pense qu'ils s'en balancent un peu. Là.
Ben c'est ça. Puis aussi, n'oublions pas, tu sais, quand un annonceur envoyait de l'argent à des médias, cet argent-là est utilisé pour financer du contenu qui est local, payer des salaires qui sont locaux, etc. Quand les revenus publicitaires s'en vont chez Facebook ou Google, ça ne sert pas à financer du contenu de qualité ou des choses comme ça. Ça sert à financer une machine à montrer de la publicité. Puis ça sort du pays. Donc, c'est ça, c'est comme... Je vois plus ça comme un transfert de richesse que d'une compétition purement d'affaires, dans le fond. Là. C'est que cet argent-là qui servait à financer du contenu, on l'espère, de qualité ici, sert maintenant juste à financer des plateformes qui siphonnent les données puis montrent des publicités. T'sais.
Puis aussi, on parle souvent de les plateformes versus les médias. Est-ce que ces plateformes-là font de l'argent sur les médias? Tout le principe de C18, c'était ça, c'est que les plateformes font de l'argent sur le dos des médias, donc il faudrait qu'ils les compensent. Je pense pas que c'est aussi simple que ça comme discussion. Il y a beaucoup de réalité économique qui font en sorte que c'est peut-être un raccourci de dire ça, mais c'est vrai que beaucoup du contenu plus informationnel qui se trouve sur YouTube et autres, c'est souvent tiré des médias.
La base même, c'est toujours ça.
C'est ça, mais c'est juste pour dire que beaucoup de créateurs de contenu de cette nouvelle vague sur YouTube, et moi j'adore ça, il y a beaucoup de ce contenu-là que je consomme sur une base régulière, ça m'informe, j'apprends plein d'affaires. C'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de nouveaux créateurs de contenu que toute leur information, ou presque, va venir de reportages médiatiques. Donc, ils vont reprendre de l'information de ces médias-là. Et éventuellement, si effectivement le modèle d'affaires des médias s'effondre et qu'on ne peut plus produire de l'information de qualité, où est-ce que les gens vont s'informer? Comme dit Jeff, bien souvent, l'information, ça ne pousse pas dans les arbres, ça vient de quelque
part. Exactement.
Donc, il y a une codépendance aussi à ce niveau-là.
C'est ça, on parle de désert alimentaire. Parfois, moi, je parlerais de désert informationnel vers lequel on se dirige si rien n'est fait. Mais justement, Jeff, je ne vais pas mettre braquer les projecteurs sur toi et te mettre sur la sellette, mais est-ce que tu crois que c'est une réalité qui est irréversible?
Non, je ne pense pas nécessairement, parce qu'on le voit déjà que ce fameux nouveau modèle d'affaires des grandes plateformes commence à battre de l'aile. On le voit, par exemple, Spotify. Donc, la plus grande plateforme...
Cette semaine,
oui. La plus grande plateforme d'écoute de musique en direct au monde a licencié 1700 postes, 20% de leurs effectifs. Ils disent qu'ils ne génèrent pas assez de produits. On sait que Spotify rémunère pas très bien les artistes, en tout cas, en dessous d'un certain seuil de popularité.
Là, génère pas assez de profit, tu voulais dire?
Oui, c'est ça. Okay. Génère pas assez de profit, désolé. Mais on sait que Taylor Swift fait beaucoup d'argent avec Spotify, probablement, mais pour des petits artistes, là, c'est des millions et des millions d'écoutes pour pas beaucoup d'argent. Et même là, ce modèle d'affaires-là, qui est supposément là, la fine pointe de la technologie, puis une entreprise qui a un monopole virtuel sur le streaming. Là, je dis pas que c'est la seule plateforme de streaming, mais...
C'est un gros joueur.
C'est un gros joueur. Même eux... ont de la misère là, en ce moment. On en parlait déjà au balado. Les grandes plateformes, maintenant, sont de moins en moins bonnes. Les résultats de recherche de Google sont de moins en moins bons parce qu'ils essaient de monétiser chaque résultat de recherche, parce que les revenus ne grimpent pas. Facebook, Google ont effectué des mises à pied cette année. Donc, on présente ça comme, regardez comment ça va mal dans les médias. Ben les plateformes aussi, leur modèle d'affaires, peut-être ne fonctionne pas si bien que ça.
Parce que c'est ça, c'était basé justement sur... enlever toute la compétition de manière à ne pas faire de l'argent, puis par la suite avoir le monopole, comme tu disais. Puis je pense qu'Uber, comme tu le mentionnais, c'est un bon exemple de ça. Notre collègue Frédéric Zalac d'Enquête a publié deux reportages au sujet d'Uber. L'an dernier, il a obtenu des dossiers, il a obtenu des documents voilà, d'Uber. Donc, il y en a un qui parle d'Uber en général, mais l'autre qui parle de l'implantation d'Uber au Québec. C'est super intéressant. Je conseillerais aux gens d'aller lire ça. On peut le mettre dans les commentaires aussi, mais dans la description aussi.
Dans la description, dans les commentaires, vous retrouvez de l'information là-dessus. Autre sujet qu'on veut aborder au menu d'aujourd'hui, là, on rebascule dans l'univers de l'intelligence artificielle.
Pas le choix.
On n'en sort pas vraiment de semaine en semaine, mais on y est parce que c'est ça, ça va vite dans ce milieu-là. Ben voilà que Gemini... vient de sortir. Gemini, qui est le nouvel ajout de Google dans l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai un coup d'œil au grand titre là, qui en parle cette semaine de la sortie de l'arrivée de Gemini de Google. Et puis là, on peut voir à l'œuvre toute la hype, tout l'emballement qui généralement accompagne cette industrie-là, cette grappe industrielle, techno-industrielle. L'impressionnante démo de Gemini, l'IA de Google qui veut détrôner GPT-4. Google présente Gemini, son IA époustouflante, ridiculisant ChatGPT. Et là, j'en passe. Oui, et puis ça, c'est des titres de médias qui, donc, couvrent la nouvelle, mais de façon partielle, je trouve, à première vue. Bon, parlons tout d'abord de Gemini, Jeff, et ce que ça amène à toute cette course à l'armement.
Oui, bien, c'est ça. Google a fait leur grande présentation mercredi de Gemini. Il y avait une vidéo, si vous l'avez vue, une vidéo de 6 minutes où il y a un ingénieur de Google qui s'amuse avec Gemini. Puis là, c'est quand même... impressionnant, là, c'est que Gemini est capable non seulement là, de recevoir des commandes écrites, mais aussi à l'audio et visuel. Donc, l'ingénieur s'amuse avec Gemini, genre, par exemple, met un petit canard en plastique sur la table et dit « Est-ce que ça flotte? » Puis là, Gemini, il dit « Ben, je sais pas, c'est fait en quel matériel? » Puis là, il fait « Squeak, squeak! » Il fait un petit bruit. Puis là, Gemini, il dit « OK, bon, ben, je suspecte que c'est fait en plastique, donc ça pourrait flotter. » Puis là, il demande à Gemini de générer des jeux en direct en disant « Regardez, okay. Avec une map du monde, est-ce que tu peux me générer un jeu? » Puis là, il invente un quiz.
Fait que c'est multimodal, là, tu sais.
Comme GPT-4, ouais. Comme le dernier modèle de GPT-4 qui peut...
Très rapide, par contre, tu vois, si la vidéo est fidèle, ben, on c'est quand pas. Même... C'est ça, on n'a pas accès, bien sûr,
au Canada,
à Gemini,
accès.
Non.
Non, ni Bard, d'ailleurs.
Mais c'est ça, ce qui est vendu, c'est que c'est plus rapide que ChatGPT-4, puis que c'est quasi instantané. Donc, on vend ça comme le nouveau assistant pour la vie. Une nouvelle manière d'interagir avec la technologie. Mm-hmm. Donc, plutôt que d'écrire des commandes ou faire des recherches ou des choses comme ça, qu'on va carrément là, interagir avec un ordinateur comme si c'était une personne.
Et c'est là qu'on se demande à quel point est-ce que c'est réellement meilleur que ChatGPT, parce que Google, ils disent que pour des tests qu'ils ont effectués, sur 32 tests, il y en a 30 que ça a surpassé les capacités de GPT-4. Mais ça, on écoute ce qu'ils disent. On n'a aucune preuve vraiment à quel point est-ce que c'est meilleur.
Exactement.
Il y a eu les démos qui ont été montrées.
Toujours comme ça. Hein?
Mais les démos étaient impressionnantes. Ils ont sorti aussi un papier où est-ce que ils expliquaient 14 tests qu'ils avaient effectués avec Gemini. Ils montraient comment ça fonctionnait. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est meilleur dans le codage et c'est meilleur aussi dans les mathématiques que GPT-4. Ça, c'est les deux aspects où est-ce que c'est beaucoup plus fort. Et j'ai vu sur Twitter hier quelqu'un qui a essayé ces 14 tests-là avec GPT-4. Donc, pour 12 des 14 tests, GPT-4 était en mesure de les compléter avec autant de précision que Bard. Donc, ou que Bard, whatever, Gemini, la nouvelle version. Donc, la différence entre les deux est peut-être marginale. Fait que de faire comme si c'est comme 1000 fois meilleur pour la personne qui l'utilise à tous les jours, peut-être que la différence sera assez minime, finalement. On le sait pas. On le sait pas.
C'est comme une grosse opération de marketing, en fait.
C'est
présenté comme la nouvelle révolution, alors que ça semble tout assez similaire. J'avoue que la vidéo, elle est impressionnante.
Ouais,
là, on va pas se leurrer. Mais une chose qui m'a fait tiquer dans les communications de Google à propos de Gemini, c'est qu'on disait elle est capable de raisonner.
Mm.
Et ça...
C'est un classique.
C'est un modèle de langage. Je veux dire, Gemini n'est pas capable de raisonner.
Il
ça n'existe
jamais.
Pas. Il y a du monde qui, d'ailleurs, disent qu'on ne devrait pas utiliser l'expression intelligence artificielle.
Absolument.
Bon, écoute, c'est une expression que tout le monde connaît maintenant. Puis je pense que pour le bien de la cause, on va l'utiliser.
Pour comprendre le phénomène, on va l'utiliser, mais on comprend que ce n'est pas un terme précis.
Gemini fait des choses qui sont impressionnantes sur la surface, mais de vendre ça comme une intelligence, dans le fond, une conscience qui est capable de raisonner, c'est absolument faux. Des langages de modèles comme ça ne peuvent pas raisonner. Donc, encore là, c'est, comme tu disais, de l'emballement, c'est d'essayer de vendre. Puis, c'est un peu comme le début de l'Internet des années 90, là, c'est dans le milieu des années 90 plutôt, mais de dire, regardez, c'est la nouvelle technologie, ça va changer le monde, embarquer dans le train, un peu comme la crypto il y a quelques
Exactement.
Années.
Exactement, c'est ça.
C'est vendu comme ça, puis il y a une tendance à vouloir exagérer.
Puis, un mot pour ceux qui vont peut-être écouter l'émission ou qui penseraient le faire. On en parle cette semaine à l'émission de cette notion d'emballement, de hype. Jonathan Roberge, professeur de culture numérique et sociologue des sciences, nous en parle. Et aussi Marie-Jean Meurs, qui est en sciences informatiques à l'UQAM, qui montre du doigt ce qu'ils appellent l'économie de la promesse. Dans le sens où tout ça est délibéré. Vendre, en quelque sorte, les prouesses non prouvées encore de ces intelligences artificielles pour générer de l'attention médiatique, pour aussi plus facilement attirer l'attention des gouvernements, des investisseurs privés. Bref, participer à ce que j'entends, Robert, j'appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est un peu ça, ce que tu décrivais en quelque sorte, qui est le propre de la Silicon Valley depuis tant d'années.
Mais une chose est sûre, là, l'an dernier, quand ChatGPT est sorti, on avait vu beaucoup d'articles qui rapportaient que c'était le code rouge chez Google. C'est la panique, on voulait se rattraper. Mmh. Et là, finalement, il semblerait qu'ils sont arrivés au même niveau ou même un peu,
assez rapidement,
un peu plus loin. Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui arrive avec OpenAI avec ça? Parce que Google ont les poches extrêmement profondes. Là. Eux autres, les coûts de serveur et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas d'enjeu.
Ils ont l'infrastructure en place pour... Comme tu disais, ils ont déjà une version de Gemini qui va être intégrée à même les téléphones Google. Donc, ils ont l'infrastructure pour mettre ces applications-là dans les mains des gens. Ils ont toute la suite Google Office que beaucoup de gens, d'ailleurs ici à Radio-Canada, on utilise ça. Donc, faut vraiment se rendre compte, là, OpenAI, on innové entre guillemets avec, en mettant ChatGPT dans les mains de la population, mais là, Google a vraiment tout en place pour propulser ces outils-là, puis pas forcer les gens mais à l'utiliser, mais au moins mettre ça directement dans des services que les gens utilisent déjà.
Et donc Google, plus que Microsoft?
Ben oui. Ouais. Puis Google, ils n'ont pas peur de lancer des produits qui ne fonctionnent pas. Ils ont fait ça à tellement de reprises. On a vu ça avec Stadia, la plateforme de jeux vidéo.
Des millions de dollars pour aller essayer de capturer le marché du streaming de jeux vidéo. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis ils ont fermé la clé.
Mm-hmm, c'est ça.
Eux autres, c'est ça. OpenAI, c'est leur... c'est leur entreprise, puis c'est leur rêve, puis c'est ce qu'ils essaient de faire. Pour Google, c'est une partie de leurs activités. Comme disait Nicolas aussi, entraîner des intelligences artificielles, ça coûte très cher en ressources informatiques. Là, on sait qu'il y a une entente entre Microsoft et OpenAI pour entraîner les machines d'OpenAI, mais Google ont tout ça. Ils n'ont pas besoin d'investir beaucoup plus d'argent pour entraîner ces machines-là. Ils ont accès à une immense infrastructure informatique.
Ils n'ont pas besoin de répondre à un CA qui a supposément des, des problèmes éthiques et des choses comme ça. Donc, bref, on verra bien ce que ça fera à la conférence, tout ça.
Ça va être la grande guerre de 2024.
Ben, c'est ça que j'allais dire. 2024, on vient de mettre la table pour ce qui s'en vient sur le front de l'intelligence artificielle ou à tout le moins des robots conversationnels, des grands modèles de langage. Tu as parlé de jeux vidéo tantôt brièvement, là, Jeff. Il faut quand même... glisser un mot sur GTA. Là.
Écoute, Nicolas a déjà hâte à 2025. Moi, je lui dis...
regarde sa face.
Mais Grand Theft Auto 6, c'est un jeu qui est attendu depuis Grand Theft Auto 5 il y a 10 ans maintenant. Puis là, bon, il y a eu la première bande-annonce qui a fuité sur X, sur Twitter. Puis finalement, bon, Rockstar l'a mis sur YouTube. La vidéo a été écoutée, je pense, au dernier décompte, quasiment 100 millions de fois en quelques jours.
C'est fou,
C'est un événement, là, je veux dire. C'est un jeu qui est super attendu. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'emballement pour ça.
C'est sûr.
Ce que je m'attendais moins, c'est les réactions. Je m'attendais pas à ça. Donc, des gens qui ont commencé à dire que... ben, Elon Musk, le premier, à dire qu'il aime pas Grand Theft Auto parce qu'il faut que tu tires des policiers. Il y a du monde qui disait que Grand Theft Auto, c'est hyper sexualisé puis qu'on vend ça aux enfants. Puis c'est des gens qui, traditionnellement, il y a quelques années, auraient eu l'opinion complètement contraire. Là, la position sur protéger les enfants de Grand Theft Auto, c'était plus des vieilles personnes qui disaient « Ah, c'est en train de corrompre la jeunesse, puis Grand Theft Auto, c'est un simulateur de crime. »
C'est
tout.
Pas nouveau, ça. Je veux dire, c'est ce discours-là sur la dangerosité de GTA pour les jeunes.
Qui est non fondée, en tout cas. Il y a des études sur les jeux vidéo et l'impact que ça a sur les gestes violents.
Exactement, mais c'était un discours qui circulait depuis super longtemps à la sortie de toutes les vieilles versions de ce jeu-là. Il y avait un avocat américain, Jack Thompson, dont la vocation était quasiment de faire des poursuites contre Rockstar ou des magasins qui vendaient ce jeu-là à des jeunes. Donc c'est drôle de voir une panique morale sur sur des policiers.
En 2023, une panique morale sur... Grand Theft Auto. Je pensais qu'on était passé outre ces débats-là, mais on a vu une certaine frange cette semaine s'éprendre de ce débat sempiternel-là.
Il y avait aussi, c'est ça, beaucoup d'accusations comme quoi que le jeu était woke, hein, parce que pour la première fois, ce sera deux protagonistes dans le jeu et un des deux, c'est une femme.
Latina, une femme latina aussi. Donc plus, là, ils disent qu'on essaie d'enfoncer dans la gorge des gens. Document. Il y a même des gens qui ont examiné des captures d'écran de la bande-annonce pour dire, regardez, la personnage féminine, c'est une personnage trans. En tout cas, je veux dire...
Ben, tu parlais de billet de confirmation.
La guerre
La guerre culturelle, bien sûr.
Mm-hmm. Autre élément qui sera très présent, très certainement en 2024, cette guerre culturelle. C'est là-dessus que se termine cette discussion. Jeff et Nicolas, merci encore une fois pour vos éclairages et vos lanternes qui nous aident à mieux comprendre le monde numérique dans lequel on vit, le monde technologique aussi. Continuez à nous écrire en commentaire, en question, où que ce soit, sur toutes les plateformes où ce balado est présent. N'oubliez pas d'écouter l'émission Décrypteur pour ceux qui ont encore la télé. C'est disponible sur tout.tv de toute façon, de façon gratuite. Alexis Delancère, Jeff Yates et Nicolas De Rosa qui vous disent à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Je me suis trompé de main. Allez, salut!